Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 14. Je reçois Marie qui, après avoir passé 15 ans dans les relations publiques au sein de plusieurs grands groupes industriels, a décidé de reprendre ses études à Sciences Po. Suite à son master en affaires publiques, elle s'est lancée dans une aventure entrepreneuriale avec le Cool Down Project. Elle nous raconte son métier d'avant et pourquoi elle a décidé de changer de voie pour accompagner les municipalités et entreprises dans la transition bas carbone en mettant les communs au centre de son expertise. Bonne écoute. Bonjour Marie.
Bonjour Jean-Philippe.
Marie, tu as 40 ans et tu as passé la première partie de ta carrière à travailler en relations publiques pour des grands groupes. Puis en 2016, tu as repris tes études à Sciences Po pour faire un master en affaires publiques. Ce qui t'a amené à lancer ton entreprise, Cool Down Project, il y a 2 ans, pour apporter des solutions concrètes aux enjeux du changement climatique pour les communes et les entreprises. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es arrivé là ?
J'ai travaillé à la fois pour des grands groupes dans le domaine de la grande des biens de consommation, comme Unilever. Et puis ensuite, j'ai intégré le secteur de l'industrie où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. D'abord dans une division d'Areva qui s'appelait Areva T&D, puis chez Schneider Electric. J'ai eu des postes assez variés, en fait. Moi, j'ai commencé ma carrière dans une toute petite agence de relations presse qui était spécialisée dans les jeux vidéo. Je suis arrivée là un petit peu par hasard, par le jeu des stages de fin d'études. Et puis, j'ai eu la chance qu'on me propose assez rapidement un CDI. Et donc... Donc, j'ai assez vite accepté. Moi, j'ai terminé mes études en 2001. Quand je suis arrivée sur le marché du travail en septembre 2001, au moment des attentats du 11 septembre. Donc, c'est vrai qu'avoir l'opportunité de signer un CDI rapidement après quelques mois de stage, c'était un vrai plus. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans dans cette agence où j'ai vraiment appris un métier. J'ai assez vite compris que... une toute petite structure comme celle-là ne me correspondait pas forcément. Moi, j'avais envie d'enjeux plus internationaux. J'ai fait des études d'abord à l'Université américaine de Paris dans un environnement très international. C'est quelque chose qui était hyper important pour moi. Et donc, le fait de travailler dans une toute petite agence hyper parisienne, ce n'était pas forcément ce à quoi j'aspirais. Néanmoins, je suis tombée sur des gens... exceptionnels qui m'ont appris un métier et ça c'est quelque chose pour lequel je suis assez reconnaissante. Et puis à la suite de ça, j'ai quitté Paris, on est parti à Bruxelles avec mon conjoint et là je me suis dit que ce serait quand même très intéressant de travailler avec ces institutions européennes et donc j'ai cherché un job dans une entreprise puisque j'avais un peu cet esprit. J'ai pas du tout été formée pour travailler dans la fonction publique, par exemple. Donc, j'avais plutôt l'idée de travailler en entreprise. Et donc, je suis arrivée à Bruxelles et j'ai eu la chance d'intégrer les affaires publiques européennes du groupe Unilever, où je travaillais pendant presque 3 ans. Et là encore, je suis tombée sur des gens hyper ouverts et qui avaient vraiment envie de transmettre leurs compétences et leur expertise. Et donc, là encore, j'ai appris un nouveau métier, celui des affaires publiques, où on peut dire lobbying, mais c'est un petit peu un gros mot aujourd'hui de dire lobbying. Et en fait, mon premier déclic en termes de le changement climatique arrive et c'est une menace pour l'humanité dans son ensemble, est arrivé à ce moment-là. Puisque à ce moment-là, il y avait déjà un certain nombre de parlementaires européens qui se penchaient sur la question du changement climatique. Et ça correspondait aussi avec la sortie du rapport Stern, qui est sorti en 2006. Et donc, à l'époque, mon chef m'avait dit, tu veux pas jeter un coup d'œil à ce truc-là, voir ce qui se dit? Et là, ça a été vraiment un choc pour moi, parce que je me suis aperçue que ce changement climatique dont on parlait, c'était bien plus gros que ce que j'imaginais. C'était une vraie menace pour l'humanité. Et quelque part, j'ai aussi compris à ce moment-là que il fallait réfléchir autrement nos modes de vie. Et ça a commencé à me travailler sérieusement. Ce qui ne m'a pas empêchée de continuer à bosser dans des grands groupes, parce que je suis assez convaincue que dans la lutte contre le changement climatique, on a besoin de tout le monde et que on peut taper sur les grands groupes industriels, mais si eux ne changent pas leurs pratiques, on n'y arrivera pas. Donc je me suis dit que ce serait plus intéressant d'être à l'intérieur de ces groupes plutôt que d'être à l'extérieur et d'avoir une posture militante qui certes est essentielle et primordiale et doit exister, mais dans la mesure où j'avais ces compétences et j'avais la possibilité de travailler pour ces groupes, je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur et essayer de changer, alors c'était un petit peu ambitieux, hein, mais essayer de au moins de réfléchir collectivement à comment changer les pratiques dans ces groupes industriels. Et encore une fois, j'ai eu de la chance de tomber sur des gens intelligents, des gens intéressants et intéressés qui étaient prêts à mettre en place plein de choses. Et donc ça m'a permis de travailler à la fois chez Areva T&D puis chez Schneider au sein de la communication externe où j'ai été en charge des relations publiques pour la division Areva T&D dans son ensemble, donc au niveau mondial, puis pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Schneider Electric. Je ne sais pas si c'est clair.
Alors, si, c'est très clair, mais j'ai déjà une petite question. Est-ce que tu peux peut-être donner quelques exemples de missions, de ce que tu faisais en tant que relations publiques ou communication externe dans ces entreprises, peut-être pour que ce soit un peu plus parlant en
Un
termes
peu plus clair,
de
ouais.
missions?
Ça marche. Ben, alors, si on reprend ce que je faisais à Bruxelles, par exemple, moi j'ai travaillé sur un paquet législatif qui s'appelait REACH, qui a en fait légiféré sur l'utilisation des produits chimiques dans l'industrie au niveau européen, dans toutes les industries au niveau européen. Donc, c'était un énorme projet législatif qui a duré 5 ans et qui était vraiment un très très gros morceau. Et qui aujourd'hui encore réglemente l'utilisation de l'ensemble des produits chimiques dans l'industrie. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler des phtalates, par exemple, dans certains plastiques, notamment dans les biberons des bébés. Enfin, donc, enfin, pas des phtalates, si, des phtalates, je crois. Enfin voilà. Donc, c'était vraiment un gros enjeu, à la fois pour l'industrie, mais aussi un énorme enjeu de santé publique. Et donc ça, c'était un projet absolument passionnant. Ensuite, chez Areva T&D, la
Ah,
mission...
je m'excuse Marie, je reviens juste sur ce projet aussi. Comment est-ce que toi tu intervenais auprès des instances européennes et en tant que Unilever, j'imagine à l'époque, par rapport à l'écriture de ces lois ou de ces projets de loi, comment ça se passait, quel était ton rôle, comment tu communiquais avec les députés ou autres?
Alors, donc effectivement, mon rôle, il y avait plusieurs cordes à mon arc. Donc, il y avait la possibilité de communiquer via les médias, c'est-à-dire de faire passer des messages par la presse et par la presse spécialisée en politique publique européenne. Donc, c'est une espèce de niche médiatique qui existe à Bruxelles. Donc, mon rôle, c'était à la fois de préparer mon chef qui était vice-président des affaires publiques au niveau monde pour qu'il puisse répondre de façon précise et efficace aux interviews. Mais mon rôle, c'était aussi un rôle direct vers les parlementaires européens et leurs équipes, où là, on pré en fait, le but, c'était effectivement, moi j'avais de la chance, hein, parce que je travaillais plutôt du côté des gentils parce que quand vous travaillez sur un projet de loi tel que REACH, il y a des industriels qui s'opposaient farouchement à l'interdiction de certains produits dont la dangerosité était clairement prouvée, mais qui pour eux étaient essentiels dans leur processus de fabrication, etc., et qui n'envisageaient pas de les remplacer. Moi, j'avais la chance de travailler avec ce groupe où les experts scientifiques étaient assez ouverts à la question du remplacement de certaines substances jugées dangereuses ou potentiellement dangereuses. Leur argument, c'était de dire, OK, on veut bien étudier des solutions de substitution, mais il faut nous laisser le temps. Donc en fait, l'objectif d'Unilever face à cette loi, c'était non pas de la contourner, de l'affaiblir ou de permettre quand même de passer à côté. C'était vraiment d'accompagner les législateurs dans la compréhension de ce qu'étaient ces produits chimiques, dans quelle mesure ils étaient dangereux, et puis les accompagner dans la compréhension du fait que ben oui, on pouvait réfléchir à des substituts, mais il fallait quand même laisser le temps aux scientifiques de trouver des substituts qui soient quand même moins dangereux que la substance remplacée. Parce que le risque, c'est quand on fait dans la précipitation, on fait moins de tests, on prend moins le temps, et donc on risque au final de substituer par quelque chose qui va s'avérer dangereux sur le long terme. Donc en fait, l'objectif, c'était ça, c'était de trouver, parce que les parlementaires étaient extrêmement pressés de mettre en œuvre cette loi, et du coup, le risque, c'était de se retrouver avec des interdictions pures et dures, qui ouvrait aussi la voie à des substituts parfois plus controversés que les produits initiaux. Donc mon rôle, c'était ça, c'était de travailler et d'accompagner les parlementaires comme ça. Donc c'est un vrai travail de lobbyiste, hein. Il y a des gens qui disent que j'étais du côté des méchants. L'idée, c'était vraiment d'apporter cette connaissance. Qui venait pas de moi, hein, qui venait vraiment des experts scientifiques de l'entreprise et d'un consortium d'autres entreprises, parce qu'il y a aussi ça, quand tu travailles à Bruxelles, on a l'entreprise qui va accompagner et qui va être en contact avec les parlementaires, avec la Commission européenne, etc. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les associations professionnelles. Les associations professionnelles, c'est des associations où tous les acteurs d'un même secteur vont se réunir et vont essayer de trouver aussi des prises de position communes. Donc il y avait tout ce travail-là qui est un peu un travail de diplomatie, hein, parce qu'il faut travailler, on est dans le compromis, on est dans un travail vraiment assez précis sur la façon de formuler les choses, etc. Et donc mon travail, c'était à la fois de représenter l'entreprise au sein de certaines de ces associations, et puis aussi d'accompagner dans la rédaction d'un certain nombre de documents, cette prise de décision en vue des votes des projets de loi.
D'accord. Ça a l'air assez passionnant. J'ai une petite question juste au niveau technique par rapport quand les parlementaires ont un tel projet de loi, est-ce qu'ils sont accompagnés, eux, de leur côté, par des comités scientifiques, par exemple, qui n'appartiennent pas forcément aux entreprises, mais qui peuvent venir, je ne sais pas, d'universités, de la recherche publique et autres, pour essayer de comprendre un petit peu dans le détail quels sont ces produits, pourquoi c'est dangereux, etc. Ou comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils sont accompagnés, en fait?
Alors, c'est une question hyper intéressante parce qu'en fait, moi, je suis toujours un peu déstabilisée quand j'entends les gens taper sur les lobbies et dire attention aux lobbies, etc. C'est dangereux parce qu'on pense toujours aux lobbies de l'industrie, dont j'ai fait partie, hein, je l'assume totalement. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que toutes les autres entités représentatives de la société ont aussi leur groupe et leur propre lobby. Par exemple, à Bruxelles, on a des ONG internationales comme Greenpeace, WWF, qui sont omniprésentes. Et sur des projets de loi comme ça, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est vraiment hyper démocratique. C'est que chaque député va recevoir les avis des gens qu'il a choisi de recevoir. C'est-à-dire qu'on est vraiment... on n'impose jamais rien, en fait. On va essayer tout ce jeu, c'est un jeu d'alliance, c'est assez stratégique et c'est ça qui fait que c'est complètement passionnant. Parce que ce jeu d'alliance, il va se faire au bon vouloir de l'élu. C'est-à-dire que au sein du Parlement, on a des commissions qui vont travailler sur tel ou tel projet de loi ou sur tel ou tel sujet. Et en fait, au sein de ces commissions, vous avez des gens d'horizons, des députés d'horizons complètement différents. Et donc, par exemple, pour nous, l'enjeu, c'était d'arriver à discuter aussi avec certains députés verts qui, a priori, avaient un petit peu de mal à écouter les voix de l'industrie, etc. Mais en revanche, ils étaient tout à fait à l'écoute de groupes d'influence, d'ONG, qui, eux, étaient beaucoup plus radicales sur le sujet. Donc, c'est aussi ça qui était intéressant. Et en fait, ce travail d'influence, même si j'aime pas beaucoup ce mot, il est passionnant parce que, en fait, ce lobbying européen, il est extrêmement ouvert et il est ouvert à toutes les voix. Et donc, en fait, toutes les voix peuvent se faire entendre et c'est réellement à chaque député et son équipe de se faire son propre avis, sa propre opinion sur ces lois. Donc en fait, si vous êtes face à des gens extrêmement ouverts, vous pouvez avoir des députés qui vont recevoir 15 personnes sur un même sujet pour avoir vraiment une vision d'ensemble et se faire leur opinion. Et moi, je trouve que le débat autour des lobbies, il fait fi du libre arbitre de chaque député européen et de sa capacité à démêler le vrai du faux et à démêler ce qui est important et ce qui l'est moins.
D'accord, c'est vraiment très très intéressant. Donc en fait, en gros, si le député, comme tu dis, est ouvert ou a la volonté d'écouter toutes les parties prenantes, c'est possible.
Complètement.
Mais c'est oui, c'est d'accord. Très très intéressant. Alors c'est vrai que ça nous emmène sur
points essentiels et qu'il faut absolument voter aux élections européennes et faire attention à qui on élit pour le Parlement européen.
Du coup, c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné de ton parcours et même si c'est passionnant, du coup, je reviens un petit peu sur justement ton parcours professionnel et ces différents postes que tu as occupés en relations publiques pour arriver un peu au moment où tu as décidé finalement, malgré tout l'intérêt de ces postes, de faire autrement. Est-ce que tu peux dire peut-être un petit peu pourquoi, quel a été le cheminement? Parce qu'aujourd'hui, tu ne travailles plus pour des grands groupes, en tout cas. Donc, pourquoi finalement avoir arrêté?
Alors, en fait, le cheminement a été assez long. Moi, j'ai fait des études à l'Université américaine de Paris. Donc, j'ai obtenu un BA en communication internationale à une époque où personne ne savait en France ce qu'était un bachelor of arts, donc c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai toujours gardé en tête que j'avais très envie de faire un master, mais je pense que c'est aussi mon éducation anglo-saxonne qui faisait que je ne voulais pas enchaîner avec un master immédiatement. J'avais envie d'avoir une vraie expérience professionnelle pour m'orienter vers le master qui me permettrait de me spécialiser dans quelque chose qui réellement m'intéresse sur le long terme, en fait. Donc, j'ai attendu longtemps, puisque j'ai fini mes études en 2001, et j'ai fait mon master à Sciences Po en 2016. Alors, pourquoi en 2016? Pour plein de raisons. Moi, j'ai eu trois enfants entre 2009 et 2014, donc déjà ça a bien occupé mon temps en plus de mon travail qui était déjà intense parce que à l'époque j'étais entre Areva Tiendi et Schneider Electric, donc j'avais des postes au niveau international, je voyageais énormément. C'était passionnant. J'avais un bilan carbone absolument terrifiant. Mais surtout, je m'étais dit, voilà, je ferai ce master un jour. Je ne voulais vraiment pas me fermer cette porte. Mais en même temps, je ne savais pas quand. Et surtout, je voulais avoir la certitude de ce que j'avais envie de faire, quoi. Et donc, encore une fois, travailler, que ce soit pour Unilever, pour Areva T&D, pour Schneider Electric, où j'ai eu des postes hyper intéressants, puisque chez Areva T&D, j'ai travaillé sur la mise en place de toute la procédure de communication de crise pour cette entité du groupe Areva, qui n'était pas une entité nucléaire, hein, qui était une entité qui gérait la mise en œuvre de réseaux. Donc, on ne travaillait pas uniquement avec la partie nucléaire d'Areva, on avait des clients extrêmement variés. Et ce qui était passionnant dans ce travail, c'est que j'avais la chance de travailler avec le monde entier. Donc c'était extrêmement épanouissant. Et puis après, cette division a été vendue à Alstom et Schneider Electric. Donc moi, je suis partie chez Schneider Electric. Et là encore, j'ai eu un poste hyper intéressant parce qu'il fallait monter tout un réseau de communicants sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. Il y avait tout à faire, des gens à recruter, des équipes à monter, des agences à choisir, accompagner une montée en compétences des équipes. Enfin, ça a été vraiment des défis assez passionnants, assez épuisants parfois aussi, parfois aussi peu compatibles avec une vie de famille, hein, parce que comme je disais, je voyageais énormément et il y a eu un moment où je me suis dit aussi que bah, voir grandir ses enfants, c'était quelque chose à ne pas rater. Donc, j'ai eu aussi envie de calmer un petit peu le jeu à ce niveau-là. Et puis finalement, j'ai décidé de faire ce master en 2016-2017 parce que j'étais arrivée aussi sans doute au bout d'un cycle. Moi, je suis quelqu'un qui a aussi besoin de changement, qui a besoin de challenge personnel et professionnel. Et c'est vrai que j'étais arrivée un petit peu au bout de ces challenges au sein d'Areva. Et donc, je me suis dit que c'était sans doute le moment de réfléchir autrement, en tout cas. Comme je te le disais, moi, j'ai commencé à réfléchir sur la question du changement climatique quand j'étais à Bruxelles, donc 2005, 2006. Donc, c'est quelque chose qui n'était absolument pas récent pour moi. Travailler pour Areva, c'était quelque chose qui n'était absolument pas antinomique pour moi, puisque travailler sur l'efficacité des réseaux, même travailler pour une entreprise qui était très connotée nucléaire, c'était quelque chose qui me dérangeait pas tant que ça, parce que pour moi, l'objectif principal, c'était la baisse de nos émissions de CO2. Donc après tout, une source d'énergie qui n'émettait pas de CO2, c'était toujours ça de pris. Et donc, malgré toutes les controverses autour des déchets, etc., enfin, je trouve que le débat, il mérite d'être mené, en tout cas. Et donc tous ces enjeux passionnants étaient devenus peut-être un petit peu moins passionnants à mes yeux. En tout cas, je trouvais plus le challenge dont j'avais besoin à mon poste à ce moment-là. Il y avait eu pas mal de remaniements dans les équipes, des choses qui s'étaient qui me permettaient moins une prise d'initiative. Et donc, je me suis dit que voilà, c'était le moment. Donc, j'ai décidé, après avoir beaucoup réfléchi, de quitter Schneider. Et ça a été une période complexe, parce que c'est quand vous décidez comme ça de quitter une entreprise du CAC 40, ben, déjà vos collègues vous regardent un peu bizarrement en se disant, mais complètement cinglé, que vas-tu faire de ta vie? Comment vas-tu t'en sortir quand tu seras sorti de ce cocon si confortable? Moi, j'avais besoin aussi de retrouver cette espèce d'inconfort, parce que, comme je te le disais, j'ai besoin de challenge professionnel. Et en fait, je m'étais aperçue que, bah oui, le fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'être, voilà, chargée de famille, comme on dit communément, avait fait que bah, peut-être j'avais mis mes ambitions professionnelles, en tout cas pas mes ambitions, mais probablement mes envies professionnelles un petit peu de côté. Et je me suis dit, ben voilà, regarder ses enfants grandir, c'est magique, c'est magnifique. Mais il faut aussi quand même construire quelque chose professionnellement et continuer de construire quelque chose professionnellement, en tout cas. Et donc c'est là que j'ai décidé de faire ce master à Sciences Po. Et assez paradoxalement, on m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas fait un master vraiment orienté développement durable. Pour plein de raisons, mais surtout, je crois, je n'avais pas envie d'être enfermée dans ce sujet-là, parce que je trouvais déjà que le développement durable était quand même un peu galvaudé comme terme, et j'avais envie d'autre chose. Comme je te l'ai dit, moi, j'ai été vraiment passionnée par mon expérience bruxelloise, et je me suis dit que faire un master en affaires publiques internationales, c'était sans doute le meilleur moyen de concilier ce vrai intérêt que j'ai pour les politiques publiques, et notamment internationales. Et en même temps, je me suis dit qu'après tout, rien ne m'empêchait d'orienter mes recherches, mes sujets de mémoire, etc., sur cette problématique du changement climatique. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de tomber, la chance ou la malchance, je ne sais pas, mais de tomber juste après la COP21 qui avait eu lieu à Paris. Donc, il y avait encore cette espèce d'aura de la signature de l'accord de Paris au moment où j'ai fait ce master. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Et ça m'a passionnée. Voilà.
Et alors, petite question aussi sur ce choix de reprendre tes études, parce que bah, tu avais quand même presque 15 ans d'expérience à ce moment-là. Mmh. Bah, pourquoi tu t'es dit, en fait, je vais faire un master? C'est parce que tu te posais des questions, tu n'étais pas trop sûr de savoir où aller, ou tu avais vraiment en tête déjà quelque chose, un projet, une direction en tout cas, et tu disais ce master va me permettre d'y accéder?
Ouais, je pense que c'était plutôt ça. Je crois que j'arrivais, comme je te le disais, au bout d'un cycle, au bout d'un cycle professionnel, certainement. Comme je disais, fait ce travail de lobbyiste pendant quelques années à Bruxelles. Et puis après, pendant 10 ans, mon travail s'est vraiment focalisé sur les relations publiques pure et dure au sein de l'entreprise, la com de crise, etc. Et en fait, je m'étais aperçue que ces compétences-là de relations presse, communication de crise, etc., elles ne sont pas si communes que ça, en fait, au sein de l'entreprise et sur le marché du travail. Et donc, ce qui pourrait paraître à certains comme une chance. Moi, je me suis dit, ben super, sauf que c'est une chance ou un piège. C'est-à-dire que, ben, il se peut aussi que du coup, tu te retrouves cantonné à ces rôles-là pour le reste de ta carrière. Et effectivement, ça faisait déjà 15 ans que je travaillais, donc on peut se dire, au bout de 15 ans, est-ce qu'on a encore besoin de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire un master? En fait, je pense que oui, pour moi, c'était hyper important parce que c'était un petit peu le moyen de faire un pas de côté et de dire, ben voilà, j'ai cette expertise et en même temps j'ai envie de faire autre chose parce que effectivement j'arrivais à l'approche de la quarantaine avec une vie a priori plutôt épanouie avec un mari, des enfants, un bon job, mais en même temps j'avais cette espèce de ronron professionnel qui me dérangeait et objectivement je me voyais pas faire ça pendant 15 ans de plus en fait. Je pense que j'avais aussi besoin d'une vraie rupture qui allait me permettre de dire, bon, ben maintenant, cette page-là se tourne, je fais autre chose. Et donc, c'était à la fois pour acquérir des compétences et je dirais un diplôme qui me permettait d'aller vers d'autres métiers, mais c'était aussi, je pense, pour marquer ce point de rupture entre la première partie de ma carrière et ce nouvel élan que j'avais envie de donner. Parce que, voilà, moi à l'époque j'avais 36 ans. Ok, j'avais travaillé depuis longtemps parce que j'ai commencé à travailler relativement jeune, mais en même temps, je ne suis pas non plus en fin de carrière. Donc, je n'étais pas non plus à un stade où on peut dire bon, ben, c'est pas grave, je ronronne un petit peu, mais c'est pas très grave parce que je finis ma carrière comme ça, puis on verra bien. Non, je suis probablement même pas encore à la moitié de ma carrière à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, ben, non, ça ne va pas être possible de continuer comme ça, en fait, parce que j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de faire des choses nouvelles. Et je me rendais bien compte que bah, le fait d'avoir ces compétences qui sont plutôt recherchées m'enfermait dans ces rôles-là. Et donc, j'étais madame com de crise, madame relations publiques. Et finalement, ce rôle-là ne me convenait pas vraiment. Voilà. En tout cas, plus vraiment, on va dire. Parce que je ne peux pas dire que ça ne m'est jamais connu, mais ça ne me convenait plus vraiment. Donc j'avais vraiment besoin de ce moment de rupture. Et puis, je ne voyais pas comment évoluer au sein de Schneider Electric d'une façon qui, moi, me satisfaisait. Et puis, j'avais aussi cette vraie envie, en fait, de reprendre mes études, de me challenger vraiment de façon profonde, quoi, de dire voilà, est-ce que je suis capable de faire ça en ayant une vie de famille, telle que je suis à 36 ans. C'était aussi ce challenge là je pense dont j'avais besoin pour aller vers autre chose. Et le fait est que une fois que j'ai quitté Schneider Electric, je me suis très vite aperçue que les recruteurs m'appelaient toujours pour le même type de poste. Et ça me prouvait aussi que j'avais eu raison de faire ce pas de côté et de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ma première partie de carrière et de mes envies, quoi.
Alors, sur un autre sujet, tu es une des personnes avec qui j'ai discuté qui a pris connaissance ou conscience des enjeux climatiques le plus tôt, puisque là, tu dis que ça fait un moment que tu es au courant. Est-ce que à travers ce master, tu avais une idée de aussi te replonger un petit peu dans ce secteur et de travailler sur ces enjeux, ou finalement, toi, tu considères, et c'est un petit peu ce que tu as fait pendant toute ta carrière, et que c'était juste une autre manière de toujours travailler sur ces questions-là?
Ah bah complètement. Enfin, moi, mon idée, c'était d'obtenir un diplôme relativement généraliste, donc en politique publique internationale et pas en développement durable comme on peut trouver certaines formations. Mais moi, mon idée, c'était réellement de me focaliser sur le changement climatique parce que, et comme je te le disais, moi, pendant toute mon année de master à Sciences Po, j'ai vraiment orienté tous mes sujets de recherche autour de ce sujet-là parce qu'il est pour moi central, essentiel. C'est le challenge de l'humanité au XXIe siècle. Pour moi, il n'y a pas d'autre sujet aujourd'hui parce que tous les sujets sont dépendants de ce changement climatique et de l'ampleur que va prendre le changement climatique. Et donc moi, mon idée, c'était réellement ça. C'était de se dire maintenant, je deviens une spécialiste des politiques publiques en lien avec le changement climatique. À l'époque, je n'avais pas forcément l'envie de monter mon entreprise pour plein de raisons personnelles. C'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur. Mais en tout cas, mon idée en intégrant Sciences Po, c'était ensuite de trouver un poste. Donc, a priori salarié, même si finalement ça a pris un tour complètement différent sur ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est vraiment le sujet essentiel. Et encore aujourd'hui, que ce soit au sein de l'entreprise en général, que ce soit une TPE, une PME, une ETI ou un énorme groupe, on est dans une vraie méconnaissance du sujet. Donc, je trouve que déjà, au niveau industrie, il y a un énorme boulot à faire. Moi, j'avais aussi envie, et passer par la case Sciences Po, c'était aussi cette envie peut-être de m'orienter vers le secteur public. Donc, j'avais vraiment cette envie aussi de, d'intégrer une entité publique pour pouvoir aussi faire bouger les lignes de l'intérieur sur les politiques publiques françaises, européennes, internationales. Je ne savais pas tellement vers où m'orienter. Mais en tout cas, j'avais cette certitude-là, en fait. C'est qu'il y a eu un moment où je me suis dit, non, mais maintenant, stop. Les enjeux, tu les connais. Donc maintenant, il faut réellement agir dans ce sens-là, et il faut que tu trouves ta place pour mener une action sur ce sujet-là. Après, moi, j'ai quand même un profil marqué très industrie, donc je m'étais dit que les portes de toutes les ONG du monde entier me seraient définitivement fermées vu mon profil. Quand vous avez Unilever, Areva, Schneider Electric sur votre CV, vous n'êtes pas forcément le bienvenu dans une ONG. Donc je m'étais dit que ça, a priori, c'était peut-être perdu d'avance, mais en tout cas, j'avais vraiment cette envie de travailler en profondeur le sujet pour vraiment me spécialiser, avoir cette compétence et avoir aussi cette légitimité aussi à travailler sur le sujet. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc quand je suis arrivée à Sciences Po, voilà, mon but c'était de m'hyper spécialiser sur le sujet du climat et sur toutes les politiques publiques qui étaient liées. Et d'ailleurs, on avait un travail de fin d'études à fournir en lien avec une institution. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec une agence de l'ONU qui s'appelle le CTCN, où on a fourni un rapport sur la façon de gérer les risques sur les zones côtières au niveau mondial. Le CTCN, c'est une agence en fait qui ne distribue pas de fonds, mais qui distribue des compétences, c'est-à-dire qui accompagne des villes, des pays, des zones géographiques dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et eux en fait fournissent des expertises, c'est-à-dire qu'ils envoient leurs experts sur place. Et ces experts accompagnent les équipes localement pour travailler sur les sujets donnés. Donc nous, on a travaillé avec eux sur un rapport sur les zones côtières, et c'était assez passionnant. Et c'est vrai que là, pendant cette année d'études, j'ai quand même vraiment eu la certitude que c'était que j'avais envie d'aller vers ça.
Et aujourd'hui, ton engagement, du coup, il prend quelle forme? Puisque tu nous l'as dit un petit peu, finalement, l'emploi salarié, c'est que tu cherchais ou tu avais en tête peut-être à ce moment de tes études, c'est pas ce que tu as trouvé. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je te le disais, le problème, c'est que quand on a travaillé pendant 15 ans dans un secteur et dans des rôles assez caractéristiques, les recruteurs manquent parfois un petit peu d'imagination. Et donc j'ai été pas tellement... J'ai été beaucoup chassée pour des postes qui étaient en fait des clones de ce que j'avais eu auparavant et de ce que je ne voulais plus. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, après tout, c'est pas très grave. À moi aussi, pourquoi pas créer le poste de mes rêves, en fait, le job de mes rêves. Et là, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une entité qui s'appelle la BGE et qui m'a accompagnée dans tout le processus de création de mon entreprise. Donc pendant un an, j'ai été en ce qu'on appelle en couveuse, c'est-à-dire que mon entreprise a été en test, en phase de test. Et au bout d'un an, à la sortie, j'ai réellement créé mon entreprise. Donc, ça fait 2 ans que Cool Down Project existe. Mais légalement, en fait, je n'ai créé qu'il y a un an. Puisque l'année précédente, j'étais dans le système de couveuse qui me permettait de tester mon entreprise sans avoir à créer numéro de tirette, etc. C'est-à-dire toutes les contraintes de la création d'entreprise. Donc ça a été assez intéressant. À vrai
Et ça
dire,
fait quoi?
oui.
Pardon, du coup, je t'interromps. Ça fait quoi, Cooldown Project, précisément?
Alors, en fait, Cooldown Project, c'est vraiment un laboratoire de la transition bas carbone. Donc, le but de Cooldown Project, c'est d'accompagner des villes, des villages, des communautés d'agglomération, parfois même des régions, vers une transition bas carbone. Donc, en fait, c'est assez varié, hein, moi, je travaille beaucoup autour de la problématique de la redéfinition des communs. Je ne sais pas si tu connais, si tu es familier des thèses d'Elinor Ostrom, qui était en fait une économiste qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 2009 et qui, elle, a vraiment orienté ses travaux autour de la gouvernance des biens communs. Et en fait, une de ses thèses, c'est de dire que ben, cette gouvernance des biens communs au niveau local, elle est essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Et en fait, moi, je crois beaucoup à ça. Et en fait, ce qui m'intéresse, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai créé Cooldown Project, c'est que pour moi, tout est important dans la lutte contre le changement climatique. Chaque action est primordiale. Et en fait, on ne peut se passer d'aucun niveau. C'est-à-dire que, par exemple, les COP, c'est-à-dire les conférences des parties de l'ONU qui ont lieu tous les ans, elles sont essentielles. On a beau dire, il ne se passe rien, etc. Qu'est-ce qui en ressort? Rien du tout. En fait, elles sont quand même essentielles parce que même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, on est dans un processus onusien où, en fait, tout est une question, encore une fois, de réflexion commune, de partage d'informations. Et ces réunions annuelles, elles sont essentielles. Et si elles s'arrêtent, ce qui est malheureusement le cas cette année, hein, la COP26, qui était une COP essentielle, est reportée à l'année prochaine. C'est quelque chose qui est assez dramatique, puisque on est à 5 ans, à plus 5 ans de l'accord de Paris. Cette année, en fait, tous les pays devaient s'engager à relever leurs ambitions en termes de lutte contre le changement climatique. Et finalement, la crise du Covid est arrivée et a un peu passé au second rang l'urgence climatique. Et en fait, aujourd'hui, ben, le fait que cette COP soit reportée à l'année prochaine, ben pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui est lourd de conséquences, parce qu'on sait que l'urgence climatique, elle est là et que chaque année compte, quoi. Chaque dixième de degré gagné est hyper important. Donc, on ne peut pas non plus. On a besoin de ces réunions internationales. Néanmoins, on est dans un processus onusien. Le processus onusien, c'est un processus d'unanimité. C'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas d'accord, on repart de zéro et on recommence la discussion. Donc effectivement, c'est des processus qui sont extrêmement longs, extrêmement complexes et qui peuvent paraître complètement opaques, mais qui sont aussi la garantie d'une égalité entre les différentes parties, c'est-à-dire les différents pays. Donc pour moi, c'est essentiel. Et au départ, moi, j'avais très envie de travailler sur ces problématiques de politique internationale. Et puis, bah, je me suis vite aperçue que oui, c'est hyper important, mais que c'est long. Et qu'en fait, l'urgence climatique, elle est prégnante. Et aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment l'adresser de façon quotidienne. Et donc, je me suis dit, ben, les politiques internationales, c'est super. Moi, j'ai eu la chance de monter un très beau projet pour la COP24 à Katowice. On a monté un projet d'art contemporain autour de réflexions d'artistes sur le low-tech, sur la sobriété, sur une éloge de la lenteur, qui s'appelait d'ailleurs Cooldown Project, qui a donné son nom à mon entreprise par la suite. Et ce projet fondateur qui était vraiment au cœur du processus onusien, qui était vraiment au cœur des discussions de la COP. C'était passionnant, mais en même temps, effectivement, quels sont les résultats de tout ça immédiatement? Il n'y en a pas. Donc je me suis vite dit que ben, si c'était très bien de faire ça, c'était essentiel, mais qu'on ne pouvait pas faire que ça. Et c'est pour ça que pour moi, traduire en fait cette urgence au niveau local, voire hyper local parfois, hein, c'est essentiel. Et donc l'idée de Cooldown Project, c'est d'être présent un petit peu à tous les niveaux décisionnels qui vont faire ils vont amorcer le changement. Donc, pour l'instant, on a ce projet pour la COP. Hein. L'année dernière, on devait aller au Chili et puis finalement, on est allé à Madrid. Cette année, on devait aller à Glasgow, ce sera pour l'année prochaine. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas attendre. Et donc, l'idée, c'est aussi d'apporter cette réflexion qui a lieu au niveau international, au niveau européen, même au niveau national plus ou moins. Mais surtout, je m'aperçois que, et ça c'est encore en lien avec les tests des Inner Ostrom, que finalement, le changement profond et rapide, il se fait au niveau local. Et donc, accompagner les maires, les patrons d'entreprise dans la prise de conscience, puis la stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, c'est là qu'on va voir ce qu'on appelle en anglais les low hanging fruits, c'est-à-dire les résultats assez rapides et qui vont aussi entraîner, qui vont avoir un effet d'entraînement vis-à-vis d'autres, parce que si machin a fait ça, truc va avoir envie de le faire, ne serait-ce que par un peu esprit de compétition, et donc essayer d'accompagner tous ces acteurs qui doivent être des acteurs du changement dans d'abord la prise de conscience. Et moi, j'utilise par exemple un outil que tu connais bien qui est la fresque du climat auprès de tous ces publics-là pour accompagner cette prise de conscience, parce que je trouve que c'est un outil extrêmement puissant qui va permettre aux gens d'engager une réflexion. Et puis l'idée, c'est ensuite de ne pas les lâcher, parce que la discussion, elle est là pendant la fresque, elle va rester un petit peu, il va y avoir cet effet choc qui va perdurer un petit peu dans le temps, mais il faut surtout battre le fer tant qu'il est chaud et dire maintenant vous avez pris conscience de ça, qu'est-ce que vous allez faire et comment vous allez le faire au sein de votre entreprise, au sein de votre commune, quels sont vos propres enjeux? Quels sont les points sur lesquels vous allez pouvoir agir rapidement et de façon efficace? Quels sont les points sur lesquels ça va être plus compliqué? Donc, mon rôle, c'est réellement d'accompagner de façon finalement très, très, oui, très, très terre à terre, hein, et très pragmatique leur mise en œuvre du changement vers plus de sobriété, vers la lutte contre les îlots de chaleur. L'idée aussi, c'est de réfléchir sur l'inclusion, parce qu'on sait aujourd'hui que le changement climatique, il frappe plus fort, plus violemment et à plus long terme les populations vulnérables. Donc, c'est comment on arrive à insérer dans la vie publique des populations qui sont un petit peu en marge et comment on les emmène directement d'une société de consommation qui les exclut vers une société plus sobre, on va dire, et comment les amener à une sobriété heureuse sans passer par une case consommation absurde. Moi, je travaille là-dessus, par exemple, avec une ville dans la région Hauts-de-France et avec plusieurs associations qui sont très impliquées. Donc, il y a un projet de ferme urbaine, il y a des projets de hypercafé, etc. Mais ce projet de ferme urbaine, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est extrêmement inclusif. Et l'idée, c'est de ne surtout pas faire une révolution, comme j'entends souvent, de bobo, c'est-à-dire dire que le changement climatique est un problème de riches, parce que c'est archi faux. Et donc, pour moi, l'inclusion, c'est aussi un sujet primordial dans la lutte contre le changement climatique. Donc, tout ça, c'est ce qui fait Cool Down Project. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir, ralentir le rythme. Cool down, en anglais, ça veut dire à la fois ralentir, mais ça veut dire aussi refroidir. Donc l'idée, c'est réellement de tendre vers une sobriété heureuse, de tendre vers aussi une réflexion autour d'un temps plus long, hein, et c'est aussi une vraie réflexion à mener autour des mobilités, par exemple. C'est se dire, je mets plus longtemps à vélo qu'en voiture, mais quels sont les bénéfices que je vais en tirer? Donc, il y a vraiment toute cette réflexion-là. Et en fait, cette réflexion-là, nourrit le projet. Et donc, encore une fois, moi, mon travail, c'est d'embarquer un maximum d'acteurs et d'essayer de faire en sorte que ils prennent des décisions qui sont engageantes, qui sont parfois contraignantes aussi, mais qui, parfois, à moyen terme seulement, seront extrêmement bénéfiques pour la société et le climat.
Ça donne très envie et ça a l'air hyper motivant. Marie, on arrive vers la fin de l'émission. Il y a encore un sujet que j'aimerais aborder avec toi, qui est celui du message ou du conseil que tu voudrais te donner à toi-même si tu pouvais monter dans la DeLorean et revenir en 2001, par exemple, à la fin de tes études. Et puis aussi, ce que tu aurais envie de donner aujourd'hui à des étudiants ou à des jeunes actifs, simplement, qui se posent des questions, qui auraient envie de s'engager, mais qui ne savent pas forcément comment, par où démarrer.
Alors, ça va être un peu la même chose. Ce que j'ai envie de dire, alors ça va être beaucoup plus personnel, à la Marie de 2001, forcément, c'est fais-toi confiance, écoute ton intuition, et n'aie peur de rien. Voilà. Je pense que c'est hyper important. Et je crois que c'est aussi un conseil que j'ai envie de donner à tous les jeunes actifs qui se disent... on sait aussi ce que... quand on sort des études, quand on sort d'une grande école, on est extrêmement formaté et on est programmé pour intégrer tel type d'entreprise, à tel type de poste, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, je crois profondément qu'il faut déconstruire ça en même temps, je crois que c'est déjà en cours, on le voit, il y a un certain nombre d'industries qui a beaucoup de mal à trouver des talents, à recruter des talents, parce qu'aujourd'hui, l'aspect financier du job n'est plus le point numéro un qui va intéresser les jeunes. Aujourd'hui, tout le monde est un petit peu en quête de sens. Et je crois aujourd'hui que quand on sort de l'école, il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut pas... il faut vraiment faire ce que beaucoup font, c'est-à-dire prendre le temps de ralentir, de se dire voilà de quoi j'ai envie, quels sont mes besoins aussi. Ça, je trouve que c'est extrêmement important parce que on nous crée des besoins sociétaux, c'est-à-dire qu'on va dire oui, toi tu as fait telle école, donc il faut atteindre tel niveau de poste pour être heureux, pour être à la hauteur des ambitions des ambitions familiales, sociétales, je sais pas tellement comment les nommer, mais en tout cas je pense qu'il y a une énorme pression qui existe encore pour les jeunes qui sortent de l'école. Et je pense que s'affranchir de cette pression, c'est une énorme force. Et ça permet justement de n'avoir peur de rien et d'écouter vraiment ses envies. Moi, je crois que si je pouvais parler à la Marie de 2001, je lui dirais, fais ce que tu as envie de faire, quoi. Moi, je pense que... J'avais envie de plein de choses en 2001. J'ai peut-être pas eu l'audace de les faire. Et je pense que c'est important d'être audacieux dans la vie, plus qu'ambitieux. Voilà.
Génial. C'est un magnifique message. Est-ce que il y a d'autres choses que tu voudrais aborder, que tu voudrais dire ?
Écoute, non, moi ça me paraît complet. Non, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu as d'autres questions ?
Non, pour moi, pareil, c'était super. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce témoignage, pour le temps passé. Et puis, je te souhaite beaucoup de bonnes choses au niveau personnel, mais aussi avec Cool Down Project. Et puis, je te dis à bientôt, peut-être autour d'une fresque.
Avec grand plaisir. À bientôt du côté de Toulouse, alors, c'est ça ?
C'est ça. Merci, Marie.
Merci à toi. Au revoir.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Osez a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez !